religieuse, aujourd'hui et demain. En compagnie de Mathieu Lavigne et de ses invités.
Bonjour à vous, ici Mathieu Lavigne au micro de Vie religieuse aujourd'hui et demain, un rendez-vous hebdomadaire proposé par la Conférence religieuse canadienne. Du 30 janvier au 1er février 2019, se tiendront les 23e Journées internationales Saint-François de Sales, véritable grand-messe des communicateurs catholiques francophones. Cette rencontre, qui aura lieu à Lourdes, réunira des professionnels de près de 30 nationalités, journalistes de médias catholiques, éditeurs et responsables de la communication en Église, échangeront sous le regard de Saint-François de Sales, patron des journalistes. L'occasion est donc belle d'aborder ce vaste sujet qu'est celui des communications en Église, thème que nous allons développer en trois temps lors des trois prochains épisodes de Vie religieuse aujourd'hui et demain. Alors cette semaine, une question sera au cœur de nos échanges, comment l'Église pense-t-elle la communication? Le trio qui réfléchira à cette question et qui nous accompagnera au fil de ces trois prochaines semaines est composé de Mgr Pierre Meuret, de Jacinthe Lafrance et de Philippe Vaillancourt. Je vous les présente. Alors, Mgr Pierre Meuret est prêtre de l'archidiocèse de Montréal depuis 1991, diplômé de l'Université pontificale grégorienne, ancien directeur général de communication et société. Il est, depuis mai 2018, secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Formé en théologie et en sciences politiques, Jacinthe Lafrance a quant à elle été rédactrice en chef et collaboratrice de plusieurs publications, dont les revues Notre-Dame du Cap et En Communion. Elle est actuellement la responsable des communications du diocèse de Nicolet. Et de son côté, Philippe Vaillancourt est formé en théologie, en journalisme et en relations internationales. Il est le rédacteur en chef de l'agence de presse Présence Information Religieuse. Il a également été l'animateur ici même à Radio-VM et on peut toujours l'entendre dans l'émission Foi et Turbulence. Alors, Pierre Meuret, Jacinthe Lafrance, Philippe Vaillancourt, bonjour, merci d'être là.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Pierre, Jacinthe, Philippe, lorsqu'elle réfléchit à la sphère des communications, l'Église met de l'avant la notion de communication sociale. Alors comment on pourrait définir cette notion qui est au centre de la réflexion sur les communications, Jacinthe?
Pour moi, la communication sociale, il me semble que ça a une référence au fait que ça touche la communauté humaine. Mm-hmm. Donc, d'où le qualificatif social. Mm-hmm. En fait, c'est pas tant différent de l'exercice des communications en général, mais il y a une préoccupation justement d'être centré sur l'humain.
Mm-hmm. Donc, on est un peu... on prend à contre-pied l'espèce de tendance à la massification qu'il va y avoir au 20e siècle.
Ou au marketing, si on veut.
Ah, si.
En effet, il y a un caractère programmatique. Hein. Le Vatican et le magistère romain, là, pour être encore plus précis, a voulu très consciemment ne pas utiliser l'expression « mass-média ». Mm-hmm. Vous faisiez référence, Mathieu, à l'instant, à des phénomènes de massification. On pense au début du 20e siècle, massification de la mort à travers des grandes guerres, massification de la production, etc. Et des phénomènes dans lesquels l'Église redoutait qui puisse avoir une déshumanisation. Hein. Elle ne voulait pas que ça s'applique aux communications. Alors, on a préféré l'expression « communication sociale ». Qu'on a surtout concrétisé et finalisé au moment du Concile Vatican II, là, essentiellement.
Oui. Pierre Meuret?
L'Église n'est pas la seule à utiliser cette expression-là. Mmh. Déjà encore, demande des communications sociales. Mmh. Même chose à l'Université Saint-Paul.
À l'UQTR
également. Oui, c'est ça. Donc, dans le monde universitaire, cette notion-là, elle est assez répandue parce qu'elle est plus englobante. Mm-hmm. Parce que la communication, ça peut être la communication de données, par exemple. Il y a une communication qui est là, mais comment est-ce que cette communication va mettre ensemble une communauté?
Mm-hmm. Hein,
par différents moyens. On ne parle pas d'une communication au téléphone entre deux personnes. Ça fait une petite communauté, mais là, on parle d'un peu plus large, d'où les communications sociales, tout ça au pluriel.
Oui. À votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des critiques de cette notion-là au sein de l'Église, des critiques de la notion de communication sociale? Est-ce qu'elle fait l'unanimité?
Je dirais pas critique, mais peut-être parfois mécompréhension venant beaucoup des ad intra, là, je dirais, là, des intervenants de l'Église, parce que on réfléchit souvent à la communication ou les communications en lien avec une notion de relation publique. Et puis, ce n'est pas que ça. Justement. Alors, il y a peut-être quelque chose, une compréhension globale à déployer.
Oui. Est-ce qu'on peut dire que communication sociale, en quelque sorte, remplacer la notion d'évangélisation ou la politique d'évangélisation?
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment une réflexion qui porte sur les moyens de communication sociale et sur les techniques à développer. Et je dirais que les communications sociales sont un élément parmi d'autres de l'évangélisation.
Ah, voilà.
Non, mais l'un ne remplace pas l'autre.
Oui. Parfait. Pierre Meury, Jacinthe Lafrance, Philippe Vaillancourt, en fonction de sa conception de la communication, quelles sont les attentes de l'Église envers les médias? Tiens, Jacinthe.
Ben, à mon avis, les attentes de l'Église envers les médias, elles ont beaucoup diminué au fil des récentes années, je dirais. Au Québec en particulier, là, je prends l'exemple du Québec, je crois que peut-être la première décennie, là, de 2000 à 2010, ça, il y a eu une espèce de mouvement d'abandon, en tout cas dans ma pratique, c'est ce que je constate, des attentes de l'Église face aux médias, si on pense aux médias comme étant les médias grand public. Là, je veux dire, il y a eu une époque où moi je travaillais dans un diocèse, on avait une conférence de presse par mois en moyenne et plus. Et maintenant, bon, ça se réduit à peut-être deux conférences de presse, rencontres avec la presse dans la région, peut-être sept ou huit communiqués de presse dans l'année. Et donc, il y a comme quand je dis un abandon, c'est comme si il y a eu une espèce d'extinction graduelle des ressources journalistiques familières avec les enjeux religieux, les questions religieuses. Et puis, en réponse à ça, une espèce de façon de dire, ben, ça intéresse personne, à part peut-être les questions un peu controversées, un peu les matières à scandale. Donc, à quoi bon?
est-ce qu'il y a des attentes davantage au niveau du contenu, dans l'approche du contenu? Je ne sais pas, par exemple, placer la dignité humaine au cœur de la communication versus peut-être ce que font les médias, de façon générale.
C'est ça, Jacinthe le mentionnait beaucoup, les médias d'information, mais les médias, ça peut aussi être... il y a déjà eu des messages, par exemple, des papes sur les cassettes vidéo, sur la pornographie, sur la violence, sur des éléments comme ceux-là. Et oui, le souci, c'était que la personne ne soit pas dévalorisée à travers ça.
Oui.
Donc, il y avait une attente par rapport à ces différents moyens de communication. C'est certain que, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Jacinthe, on sent qu'on a relativisé cette attente avec les années parce que, comme dans bien d'autres domaines où l'Église peut avoir une prise de parole, on sent bien que cette prise de parole, elle est plus ou moins écoutée. Mais l'attente, et dans une certaine mesure aussi, l'influence de l'Église a été bien réelle, que ce soit sur le cinéma, la radio, la télévision, encore aujourd'hui au Québec. Et même chose, que ce soit nos pratiques éthiques et tout, il y a une partie de ça qui nous vient des soucis de l'Église.
Pierre Meury?
Ben, je ferais deux ou trois constats dans ces relations entre l'Église et les médias. La première des choses, c'est que les médias eux-mêmes ont changé.
Oui.
Tu disais, Jacinthe, les conférences de presse, ben, à peu près tous les organismes aujourd'hui souffrent du fait que quand ils convoquent une conférence de presse, il n'y a plus personne qui se présente. Donc, ça, c'est une pratique qu'on peut déplorer, mais qui est un fait... des médias eux-mêmes, les compressions budgétaires, une organisation du travail autre, etc.
Le web aussi, en quelque sorte. L'accès à les communiqués sont en ligne. On n'a pas besoin de se déplacer sur place pour avoir la nouvelle, certaines fois.
Et je pense que dans les médias et peut-être dans la population en général, on a fait une association entre... si c'est un sujet de religion, ben c'est une question d'opinion. Ça veut donc dire que tout le monde peut s'intéresser à la question. Donc, on va avoir, pour couvrir les faits religieux, n'importe quel journaliste, mm-hmm. absolument un junior, qui n'aura pas fait un suivi. On ne reconnaît pas que dans la sphère religieuse, il y a une rationalité qui lui est propre. On ne peut pas dire n'importe quoi. Il y a des règles, pas des règles qui viennent d'en haut, mais des règles rationnelles qui font qu'il y a quelque chose à dire ou à ne pas dire. Et en même temps, je dirais que il y a un désintéressement parce que il y a au Québec en particulier une marginalisation de la religion. Mais d'un autre côté, quand j'entends mes amis qui sont en politique active, hein, qui sont chefs de cabinet ou autres, je les entends parler des médias, j'entends les gens d'église parler des médias, c'est exactement
c'est le même discours. Ouais.
Donc, il n'y a rien de particulier, à mon avis, entre Église et médias et autres sphères d'activité des médias. On les louange de la même façon, puis on les critique de la même façon.
Oui, j'attendais la critique.
Oui, donc on faudrait commencer par la critique.
C'est ça. Et le Concile Vatican II a insisté sur la vocation à l'unité du genre humain. Et les moyens de communication sont alors perçus comme des outils pour favoriser cette unité-là. Est-ce que c'est pas le contraire qui se passe en ce moment? Est-ce que c'est pas le contraire que produisent certains moyens de communication actuellement? Bon, je veux pas ajouter à la critique des réseaux sociaux, mais ça donne un peu cette impression-là qu'on polarise, que les discours sont polarisés. Bon, je dis les réseaux sociaux, mais certains médias aussi plus traditionnels vont agir en ce sens-là. Est-ce qu'on n'est pas donc dans une ère de polarisation sociale plutôt qu'une ère, disons, de communion? Tiens, Jacinthe?
C'est vrai dans une certaine manière parce que, oui, la polarisation, elle se ressent, comme tu dis, dans les médias sociaux. Et aussi, bon, dans toute la pratique de la chronique.
Oui, l'opinion.
L'opinion est foisonnant. On ne peut pas dire le contraire. Par contre, est-ce que c'est ce qui éloigne peut-être ou qui creuse le fossé entre ce que l'Église aurait à communiquer par rapport à la pratique ou à ce qui se rend? J'en doute. Je crois que c'est certain que pour l'Église, on parlait de consensus et communication consensuelle.
Mm-hmm, ouais.
J'ai souvent observé que le message qui se rendait au fil d'arrivée, si on veut, là, c'est une sorte de communication univoque. C'est comme s'il n'y avait qu'une seule voix qui puisse parler au nom de l'Église ou au nom de la communauté catholique. Alors, peut-être qu'il y a des choses des gens à habiliter à avoir une communication crédible qui ne soit pas nécessairement une parole officielle ou une ligne de parti. c'est dans ce sens-là qu'il y a peut-être un apprentissage des médias à faire au sein de la communauté des croyants qui peuvent prendre parole.
Philippe, vous qu'observez la scène, le milieu religieux, comment vous réagissez à ça?
Ben, je me dis que la polarisation, c'est une chose. Mais on peut être polarisé et puis être en dialogue. Finalement, poser la question, est-ce que c'est pas... Aussi dire, je pense par exemple, Pierre parlait de politique à l'instant, mais ça peut être entre la gauche et la droite. Dans l'Église aussi, on a des courants assez variés. Là. Donc, être en dialogue, oui, d'accord. Ce qui nécessite une certaine forme d'écoute aussi. Et ça pose finalement la question de l'éducation par rapport aux médias. Où est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir où est-ce qu'on peut se former aux médias, où est-ce qu'on peut se former à avoir une parole médiatique? Parce que le phénomène des réseaux sociaux, finalement, c'est prendre un paquet de gens qui n'auraient jamais été habilités à écrire, à s'exprimer à la radio, à la télévision. Et tout à coup, cette parole-là, elle est complètement libérée, pour le meilleur et pour le pire.
Ouais, c'est ça.
Et là, on doit composer avec ça, y compris dans les milieux religieux. Je pense que ça revient, bon, finalement, oui, ça revient à la préoccupation de l'éducation. Est-ce qu'on en tient assez compte? C'est sûr que c'est arrivé très, très rapidement. Les réseaux sociaux, ça s'est développé rapidement. Est-ce qu'on en tient suffisamment compte dans le système scolaire? Ça peut être une question. J'aimais beaucoup ce que disait Jacinthe à l'instant. En Église aussi, il y a tout un apprentissage au sein de l'Église catholique. À qui donne-t-on la parole? Qui est habilité à parler? Et quelle est la valeur aussi de cette parole? Donc, quand on parle de polarisation, je crois qu'il faut peut-être se mettre le nez dans ces questions-là.
Oui, oui. Pierre-Marie?
Bien, cette polarisation a pris un nouveau visage avec les médias sociaux, mais elle a toujours existé. Mm-hmm. Si les textes du magistère étaient un appel à une unité, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Hein? Mm-hmm. Quand on pense plus proche de nous, un lecteur du Journal de Montréal, c'est pas un lecteur du Devoir. Mm-hmm. Et c'est presque une faute que de changer de camp.
Hein? Ouais, oui.
Et donc, il y a déjà là une polarisation, c'est-à-dire ouais. que je vais choisir ma source et je vais négliger l'autre. À une certaine époque, quand les syndicats avaient des journaux, des publications, quand les mouvements partis politiques, tout ça, il y avait la polarisation qui était là. Mm-hmm. Alors, je dirais que cet appel à l'unité, d'utiliser les moyens de communication pour rassembler plutôt que pour diviser, c'est un idéal à poursuivre. L'appel, enfin, la pertinence de cet appel-là réside dans le fait que c'est un appel. Mm-hmm. On n'y arrivera jamais. La nature humaine est ainsi faite, puis aussi, la réalité est complexe. La façon de la comprendre est complexe.
Oui.
Et les solutions qu'on peut apporter pour améliorer notre sort, elles sont complexes aussi. Donc, il y a une divergence, ça va, tant qu'on ne se lance pas de tomates mm-hmm. et qu'on cherche le bien commun.
Oui.
Mais la polarisation, la division, la disparité des points de vue va toujours exister et ce n'est pas un mal, finalement.
Mm-hmm. Il y a cette notion de prendre soin de l'autre via la communication. Prendre soin de l'autre dans la communication, on s'entend, en ce moment, on a plus l'impression que la communication va être une façon d'amener l'autre à soi, en quelque sorte. Et là, l'Église propose une communication qui veut prendre soin de l'autre. Il y a quelque chose là, je trouve, d'un paradoxe, ou en tout cas, on est loin. Le fossé me semble le grand. Je me demande même, est-ce que l'Église peut s'arrimer ou cohabiter avec les normes de la communication moderne qui valorise, entre autres, la spontanéité, le divertissement, la vitesse. Je disais un mot de Benoît XVI qui disait « faut ralentir ». Notre rythme dans la communication. Je lisais ça, je me dis tout à fait d'accord, mais waouh, comment l'appliquer en Église aujourd'hui? Donc, Jacinthe.
Bien, moi je pense qu'il y a moyen d'entrer dans cette pratique de la communication moderne, comme tu l'appelles. Donc oui, rapidité, oui, parfois des opinions tranchées.
Ouais, la dimension ludique aussi,
le divertissement. Mm-hmm. Mais je pense que ça peut se faire dans la mesure, justement, où des croyants acceptent de se mouiller mm-hmm. Et que l'institution... consent à reconnaître la crédibilité du témoignage des personnes. Et puis, il me semble que il y a quelque chose comme une différence entre justement le porte-parole ou la porte-parole laïque qui se présente comme quelqu'un en cheminement, mm-hmm. en questionnement, puis qui peut présenter son témoignage de foi. On sait les histoires, les récits humains, là, ça marche. Là. Oui. Les émissions de deuxième chance, ça fonctionne. Mm-hmm. Donc, les gens sont prêts à entendre parler d'une expérience personnelle. Quand tu arrives à une prise de parole institutionnelle, ben c'est une autre affaire. Oui. Et puis, il y a toute la question aussi du rapport à l'autorité qui est complètement changé, non seulement dans l'Église, mais mmh. dans toutes les sphères de la société. Là.
Oui.
Ben, si on parle du concept fondamentalement, la communication sert à créer la communauté. Et dans ce sens-là, l'Église, ce qu'elle propose, c'est d'abord une rencontre. Une communauté qui va se former autour d'une rencontre avec Jésus. C'est ça qui est proposé depuis les tout débuts. Mm-hmm. Et donc, cette rencontre-là, Nécessairement, c'est pas une expérience de speed dating. Là. Moi, je connais pas grand monde qui a rencontré Jésus, puis là, tout à coup, baclard, là, tout le monde est viré à l'envers. Oui, des fois, on va entendre des témoignages comme ça, mais il y a tout un processus là, qui vient.
C'est une démarche.
Ça demande du temps. Oui. Et c'est pas quelque chose qu'on peut artificiellement mimer, reproduire, provoquer, etc. Alors, il y a toujours le moyen de communication évolue, la vitesse évolue, les artifices évoluent, puis je dis pas ça de manière, il n'y a aucune forme de commentaire péjoratif là-dedans, mais fondamentalement, tôt ou tard, il y aura toujours ce besoin pour la rencontre, ce besoin pour l'écoute, ce besoin pour le silence aussi, qui sont constitutifs pour la plupart des chrétiens que j'ai rencontrés dans ma vie, de l'expérience personnelle qu'ils font avec Jésus et la communauté chrétienne. Oui, l'Église peut certainement, et les Églises peuvent certainement, on va faire des vidéos YouTube, on va faire toutes sortes de choses, tant mieux, on va communiquer un certain message, mais il y a une part de la communication qui, elle, je crois, échappera toujours quand même un tout petit peu à ces modes-là. Là.
Qui va se situer un peu en marge.
Oui, voire même en amont. Là.
Ah oui, OK.
Ouais.
Pierre-Marie?
Ouais, comme mes collègues le soulignent, je pense que de par sa structure, l'Église est mésadaptée à cette spontanéité, puis cette communication tout azimut. Alors, probablement que l'Église a à être interpellée, même au plan local, par cela. Hein. Il y a des limites à vouloir contrôler le message. Et il y a peut-être une confiance à développer auprès des différents acteurs dans l'Église. Ça, on a des croûtes à manger, je pense, de ce côté-là. Par ailleurs, ce que disait Philippe est tout à fait juste. Hein, ce que nous, on propose, c'est quelque chose en profondeur. Alors, bon, c'est difficilement conciliable avec les 8000 clics par seconde de Facebook ou je sais pas quoi.
Le spectacle.
Voilà. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que cette spontanéité et cette vitesse dans les communications, c'est récent. Ça date de 10 ans. 12 ans maximum, et vers où ça va évoluer? On voit très, très bien là, que Facebook, par exemple, commence à se poser des questions sur de laisser tout un chacun publier n'importe quoi, et là, on se dit, ben, on est peut-être en train de se faire manipuler. Qu'est-ce que va être la gestion de ce type de communication-là dans 10 ans? Là, je serais bien curieux de le savoir. Alors, on aurait tort de prendre le moment qu'on constate aujourd'hui pour dire, ben, c'est le modèle des communications pour l'avenir.
Oui.
Non, dans 5 ans, ça va être autre chose déjà. Et c'est là où l'Église, de par sa lenteur, de par son rythme, de par ses préoccupations, peut influencer parce qu'il n'y a pas que l'Église qui est de ce côté-là. Parlez à des politiciens, ils vont dire, si j'ai un budget de 5 milliards, j'ai besoin d'un peu plus que 30 secondes pour en parler.
Tout à fait, oui.
Hein? Alors, il y a tout ça là où, veut pas, tout ce monde des communications est en mouvance et c'est en ne se trahissant pas dans sa vocation profonde, que ce soit l'Église, le monde politique, le monde économique ou tous ceux qui ont quelque chose à dire, vont influencer sur le mode de communication et on verra bien où ça va mener.
On va peut-être ralentir.
Et aller un peu plus en profondeur.
C'est ça, voilà.
Et quitter le terrain de l'opinion pour aller vers des informations un peu plus avérées.
Oui. En même temps, si on parle du rapport au temps. Moi, je suis toujours sidérée de voir qu'il y a des fausses nouvelles ou des rumeurs ou des procédés de communication qui survivent des années sur les médias sociaux. Une fausse nouvelle qui a été publiée il y a
5-6 ans,
peut revenir, 5-6 ans revient de manière cyclique.
Elle a plusieurs vies.
Alors, si on peut ajuster le tir des fois, parce que parfois, ça atteint les valeurs évangéliques, si on veut, la façon que les gens ont de s'identifier à la vérité, en quelque sorte. Donc, il y a des façons de faire qui peuvent nous aider à remettre sur la route des choses qui ont plus de valeur que d'autres.
Oui, oui. Et est-ce que, bon, Jacinthe, vous évoquiez tout à l'heure la notion du témoignage, le récit. C'est Guy Marchesseau qui soulignait qu'il y a peut-être là un lieu de rencontre entre les médiums modernes, entre guillemets, et l'Église et la communication en Église. Donc, la mode, en tout cas, ce qu'on appelle souvent dans le jargon de la communication, le storytelling, qui est très à la mode. Mm-hmm. Et c'est vrai, vous l'avez évoqué, le témoignage, ben oui, ça marche. Ça marche aussi dans la communication de la foi. On va souvent être touché par le témoignage de personnes qui sont croyantes et peut-être se mettre en chemin. Donc, est-ce que c'est là une avenue intéressante à vos yeux, ou c'est une avenue risquée que de miser en quelque sorte sur le témoignage, le storytelling?
Moi, je pense que fondamentalement, l'humanité intéresse l'humain.
Oui.
Alors, le récit d'expérience personnelle, le témoignage, qu'on peut appeler ça ainsi aussi, pour moi, c'est sûr que c'est la meilleure approche pour avoir l'oreille attentive de celui à qui on s'adresse. Et ça a été une de mes découvertes quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur le traitement du religieux dans les magazines grand public. C'est que à partir du moment où une personne fait un témoignage d'une expérience personnelle, le traitement du sujet, qu'il soit religieux, c'est ce à quoi je m'intéressais, va être beaucoup plus favorablement traité.
Oui, oui, oui. Et Pierre Meurice, sur cet aspect du storytelling, le rapport au récit, au témoignage?
Ben, je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin, que ce soit dans l'ordre des médias ou dans la vie de tous les jours. Hein, c'est à travers une rencontre que quelque chose de spirituel et de religieux va se vivre.
Oui.
J'ai pas rencontré beaucoup de gens qui s'étaient convertis suite à la lecture d'un article de saint Thomas d'Aquin ou d'un traité sur la Trinité ou sur la transsubstantiation. C'est quand ça a sa valeur, parce que ça répond à des questions.
Qui sait? Oui, oui.
Mais c'est pas la porte d'entrée habituellement.
Oui.
Et pour que le Christ, l'Évangile touche ma vie, ben, c'est à travers le constat que je fais qu'il a touché la vie d'un autre. Puis, ben, comment ça s'est fait? Puis, qu'est-ce que ça a changé chez toi? Puis, qu'est-ce que tu as de différent? Et je découvre que c'est la foi. Ça va m'interpeller.
Oui, ben oui.
Jésus parlait en parabole. Quand il y avait quelque chose d'un peu concret à dire, voilà, un homme avait un champ, puis il partait là-dessus.
Oui, oui, oui.
Donc, le Nouveau Testament aussi, et le témoignage parfait et originel même de ce qui demeure fondamental pour l'Église au niveau de la narrativité. Là.
Pierre Meurice, Jacinthe Lafrance, Philippe Vaillancourt, merci beaucoup pour votre présence en studio aujourd'hui. C'était très intéressant. On refait ça la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.
À bientôt.
Alors, je rappelle que Mgr Pierre Meurice est le secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, que Jacinthe Lafrance est la responsable des communications du diocèse de Nicolet, et que Philippe Vaillancourt est le rédacteur en chef de l'agence de presse Présence Information Religieuse. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Vie religieuse aujourd'hui et demain, une émission proposée par la Conférence religieuse canadienne et financée par la Fondation canadienne de la vidéo religieuse. Un amical merci à Pierre Degagné à la régie. La semaine prochaine, on retrouve donc notre trio pour aborder ce thème, continuer d'aborder ce thème sur la communication en Église. Je m'appelle Mathieu Lavigne et je vous invite d'ici là à rester à l'antenne de Radio-VM. À bientôt.